dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel. Le mois de décembre 2006, selon Jean Imbeau.
Quand j'ai accepté, il y a déjà quelques mois, l'invitation de Nicolas Lévesque à participer à cette chronique, j'ai cédé en même temps à un de mes plus incorrigibles travers qui est l'étourderie, ou la distraction, ou comme on dit en psychologie, le défaut d'attention. J'avais la conviction d'avoir parfaitement compris les règles du jeu, et je me disais que de toute façon, j'avais bien le temps d'y repenser, et que je m'occuperais de ça plus tard. C'est seulement au moment où je me suis mis à la tâche que je me suis senti inconfortable. J'ai relu alors les consignes. Il devait s'agir d'une sorte de jeu. Un jeu qui consisterait à me placer, pendant le mois de décembre 2006, dans une position d'observation du monde extérieur, et à me laisser envahir, là je cite les mots de Nicolas, à me laisser envahir par le dehors, pour ensuite tenter, après coup, c'est-à-dire maintenant, de reconstituer cette expérience et d'en dire quelque chose. C'est seulement en relisant ces consignes que je me suis rendu compte qu'elles étaient plus difficiles et obscures qu'elles n'en avaient l'air. Il y a 4 ou 5 mois, je m'étais contenté de croire naïvement qu'il me suffirait de faire une sorte de commentaire de l'actualité en me tenant à distance, sans trop m'impliquer personnellement. Alors que maintenant, je sens plutôt que si je veux jouer le jeu jusqu'au bout, je ne pourrai pas le faire sans prendre un certain risque, sans prendre le risque de montrer un certain excès de subjectivité, donc une certaine incohérence, et sans mettre ma crédibilité en jeu. Pour la bonne et simple raison que le monde extérieur, le dehors, comme dit Nicolas, ça ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Ou plutôt, je devrais dire, le monde extérieur, personne ne le ressent exactement de la même façon. Bien sûr, au plan théorique, on devrait n'avoir aucune difficulté à se mettre d'accord sur le fait que le monde qui nous entoure, il est là, objectivement, et qu'il est le même pour tous. Mais pour moi qui fais de la psychanalyse, si la pratique de ce métier m'a appris une seule chose, c'est que personne n'a exactement la même émotion. Personne n'a exactement le même affect devant ce qui est extérieur à lui-même. Du reste, c'est peut-être l'une des raisons principales pour lesquelles quelque chose comme la psychanalyse a fini par s'inventer dans notre civilisation. Les choses réelles existent, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur un plan théorique, on peut finir par s'entendre sur une même façon de définir les choses réelles. Mais notre sentiment, notre émotion devant ces choses ne cesse de varier d'un individu à un autre. C'est peut-être là l'une des sources importantes des conflits qui existent dans nos sociétés. En tout cas, c'est très certainement la source principale des déchirements qui nous divisent à l'intérieur de nous-mêmes. Ces déchirements que la psychanalyse choisit d'appeler des conflits intrapsychiques. Par conséquent, si je veux jouer le jeu auquel on m'a convié, et si je veux vous parler de mon expérience du monde extérieur, à moins d'être un peu hypocrite, je ne pourrai pas vous en parler seulement en théorie. Je devrais essayer de vous en parler aussi à travers l'émotion qui est la mienne, une émotion qui n'est pas nécessairement la vôtre, et une émotion qui est peut-être aussi une lentille qui déforme et qui crée des distorsions. Mais quoi qu'il en soit, je ne pourrai pas éviter de vous dévoiler quelque chose de moi-même. Parce que ce sentiment, je le découvre de plus en plus clairement, ce sentiment, il est au bout du compte mon instrument d'orientation le plus personnel et le plus intime. Et je ne pourrais sans doute pas faire un seul pas dans le monde sans lui. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec mes récits personnels, mais si je veux que vous puissiez me suivre, je me sens quand même forcé de vous transporter, très très brièvement, dans le temps et dans l'espace de mon passé. Moi, je suis né au Québec au milieu du siècle dernier, juste après la Deuxième Guerre, dans un petit village situé sur la rive nord du Saint-Laurent, à peu près à mi-chemin entre le village de Tadoussac, qui est à l'embouchure du Saguenay, et Baie-Comeau, qui se trouve aux abords de l'estuaire de la Manicouagan. Pour l'essentiel, cette région est demeurée aujourd'hui ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire que du point de vue géographico-socio-démographique, si vous me passez l'expression, elle s'est développée essentiellement le long d'une route, qui épouse le littoral du fleuve avec quelques villages assez distants l'un de l'autre, qui sont égrenés le long de cette route. Alors, mon village était l'un de ceux-là, et pour vous en donner une description encore plus précise, il était fait simplement de deux rangées d'habitations, disposées de part et d'autre de la route, sur une distance d'environ 2,5 km. Il n'y avait aucune ferme, aucun champ, aucun élevage d'animaux, sauf quelques poulaillers dans la cour arrière de certaines maisons. La seule raison d'être de ce village était de servir de base d'opération à une compagnie d'exploitation forestière. Donc, je pourrais dire que mon village, c'était simplement ce rectangle de 2,5 km de long par environ 150 mètres de large. À l'est et à l'ouest, il n'y avait strictement rien d'autre que la route qui le reliait à deux autres villages lointains. Au sud, il y avait le fleuve, qui à cet endroit est large de près de 40 km, et qu'on appelait d'ailleurs la mer. Au nord, dès qu'on avait franchi la lisière du village, on était dans la forêt, qui s'étendait dès lors sur des centaines de kilomètres. Je vous raconte tout cela simplement pour vous mettre dans le contexte de ce que je pense être mon plus vieux souvenir du dehors, ou bien, comme je le disais, ma première émotion du dehors. Ma première émotion du dehors, je crois qu'elle coïncide avec le moment où j'ai franchi seul, pour la première fois, la lisière nord de mon village, et que je me suis retrouvé dans ce qui m'apparaissait alors comme la forêt, c'est-à-dire la forêt à l'échelle de l'enfant que j'étais, une forêt où je ne devais pas m'engager sur plus d'une dizaine de mètres. Ce n'est pas facile d'en parler parce que c'est une impression qui devance les mots et qui ne fait pas bon ménage avec les mots. Mais puisque en ce moment on est à la radio et puisque je suis en train de vous parler, il faut bien que j'aie recours à des mots. Et pour me débrouiller tant bien que mal, j'emprunte une expression à Nietzsche. Je dirais que ma première émotion du dehors, quand j'ai franchi la lisière nord de mon village, elle a coïncidé avec le fait, et là je cite Nietzsche, elle a coïncidé avec le fait que je retrouvais les choses à l'état libre. Donc, retrouver les choses à l'état libre. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter à ça? Mon village, je crois vous l'avoir fait comprendre, était très arriéré et très isolé à l'époque de ma naissance, mais il n'empêche que, comme tous les petits villages du monde, c'était un lieu très hautement organisé, avec une église, un presbytère, un curé, une école, un instituteur, des religieuses éducatrices, trois ou quatre magasins, un petit bureau de poste, des dames de Sainte-Anne et des chevaliers de Colomb, mes parents, mes oncles et tantes, mes cousins et cousines, des voisins, des chicanes de famille, des secrets de toutes sortes, et des chiens qui jappaient la nuit et dont j'avais peur le jour. De ce point de vue, retrouver les choses à l'état libre, au moment où je franchissais la lisière de la forêt, ce n'était pas tant acquérir plus d'autonomie et plus de liberté que de me trouver devant un monde avec lequel j'entrais en contact avec mes propres perceptions et mes propres actions. Un monde que, dans mon impression du moment, je ne sentais pas déjà régi et codifié par toutes les valeurs qui avaient cours de l'autre côté. Un monde où, toujours selon mon impression du moment, ma propre action pouvait avoir son propre effet. Et du reste, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais c'est de cette manière-là que Freud situe l'expérience du dehors, par opposition à celle du dedans. Freud dit « le dehors, c'est ce sur quoi mon action peut avoir un effet. » Donc, un monde où mon action pouvait avoir son propre effet sur les choses, c'est-à-dire où mon action n'était ni brimée par un interdit, ni magnifiée de façon illusoire par toutes les formes d'idéalisation qui prévalent dans les groupes humains, quels qu'ils soient. Bien sûr, ce souvenir personnel, il n'a aucune portée scientifique ni aucune valeur théorique proprement dite. Je ne le présente pas comme la base d'une argumentation sérieuse qui pourrait intéresser ceux qui s'occupent d'une manière experte de cette notion de dehors, les philosophes ou les théoriciens de la psychanalyse. Je suis simplement en train de vous raconter une histoire. Comme tous les souvenirs d'enfance, le mien est très certainement fictif pour une bonne part, même si c'est à mon insu qu'il est fictif. On sait depuis longtemps que la mémoire affective que nous avons de notre enfance est une grande menteuse qui déforme et réinvente les faits à notre insu, si bien que les souvenirs que nous gardons de notre passé lointain sont souvent très différents de ce qu'a été notre enfance en réalité. Et puis c'est un souvenir tellement singulier, tellement exclusif à ma propre histoire, que je serais bien malvenu de vouloir en généraliser la portée. N'empêche que pour moi, ce souvenir s'est fixé comme une borne, comme le pivot d'une sorte de boussole, une boussole qui fonctionne automatiquement, par elle-même, et qui ne cesse pas un instant de me faire sentir « ici, en ce moment, tu n'es pas dehors ». Le dehors, c'est dans cette direction-là. Mais c'est alors que se produit quelque chose d'un peu étonnant, d'un peu inattendu, et qui est au cœur de ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Comme un très grand nombre de gens de ma génération qui sont nés dans une région rurale du Québec, et pas seulement du Québec d'ailleurs, j'ai été poussé par une force quelconque à m'éloigner de mon village. Une force très certainement salutaire à bien des égards. Et j'ai eu envie, comme on dit, de découvrir le monde. Non seulement j'ai migré vers les villes, non seulement j'ai un peu voyagé, non seulement j'ai fréquenté une ou deux grandes écoles, mais j'ai essayé aussi de me familiariser avec des petits fragments de ce qu'on appelle la civilisation, la culture. J'ai lu quelques livres, j'ai vu quelques films, j'ai noué des relations, j'ai discuté. J'ai été amené à écouter les gens parler. Et c'est par ce biais que j'ai été conduit, d'ailleurs, à faire de la psychanalyse. Faire de la psychanalyse, au fond, c'est s'employer à saisir, à comprendre ce qu'on appelle communément la vie psychique. C'est-à-dire, c'est s'employer à comprendre de quoi est faite une émotion humaine. Ou pour le dire encore autrement, c'est essayer de saisir à partir de quand une action, ou à partir de quand un agir, devient-il un agir qu'on peut qualifier d'humain? Or, s'il y a une chose qui m'a particulièrement frappé et qui m'a intrigué d'une façon croissante, ça a été de constater à quel point les gens que j'écoute professionnellement, c'est-à-dire les gens qui souffrent dans leur vie psychique, les déprimés, les anxieux, ceux qui ont le sentiment d'un gâchis ou d'un échec perpétuel, à quel point ces gens peuvent rarement se sentir en contact avec les choses à l'état libre, à quel point ils se sentent dépossédés de leur perception, mais beaucoup plus encore, à quel point ils sont sensibles à cette dépossession. Et simultanément, je constatais moi-même que de mon côté, en dépit de mes pérégrinations, il m'était de plus en plus difficile, à moi aussi, de ressentir quelque chose qui ressemble à l'impression du dehors qui avait marqué mon enfance. Et il était de plus en plus rare que ma boussole intime me confirme que j'étais effectivement en contact, pour mon propre compte, avec les choses à l'état libre. Quand je dis les choses à l'état libre, je n'entends pas les choses à l'état naturel. Je ne suis pas en train de promouvoir un nouveau rousseauisme, ni un retour à la terre. Et je n'ai pas l'intention de fonder un autre lobby écologiste. Non, prendre les choses à l'état libre, ou prendre contact avec les choses à l'état libre, ça voudrait plutôt dire prendre contact avec le monde, à même une perception qui ne serait pas hypothéquée par toute une série de forces qui la contraignent et qui l'entravent. Ou bien, ce serait la capacité véritable d'agir sur les choses qui m'entourent en concordance avec ce que je perçois. Ou, pour le dire encore d'une autre façon, ce serait de pouvoir disposer de ma propre capacité de penser face au monde, puisque la pensée, ce n'est pas autre chose que ça, une petite action sur le monde extérieur, une petite action virtuelle, une action virtuelle et expérimentale, comme quand on se dit « Essayons donc ça pour voir » ou bien « Qu'est-ce que ça donnerait si je posais tel geste ?» Je disais que les gens qui souffrent dans leur vie psychique, les gens qu'on suit en psychanalyse, sont généralement beaucoup plus sensibles que le commun des mortels à la contrainte qui s'exerce sur leur perception et à ce qui les détourne de leur pensée. Ils sont incapables de se conformer à cette contrainte sans payer un prix exorbitant, un prix qu'on appelle symptôme ou déviance ou comportement pathologique. Mais le fait est que nous sommes tous marqués, à divers degrés, par les effets de cette contrainte. Une façon différente et complémentaire d'illustrer ce que je suis en train d'essayer de dire serait de me reporter à l'actualité la plus immédiate. Au moment où je prends les quelques notes qui me serviront pour ce petit monologue radiophonique, je me trouve à Paris. On est précisément le 11 décembre 2006. Même si je suis pratiquement en vacances aujourd'hui, je ne déroge pas à mes devoirs de citoyen. J'ai déjà regardé les informations télévisées du matin sur France 2, et présentement je suis à mon ordi, à consulter le site de Radio-Canada, puisque je reste désireux de savoir ce qui se passe dans mon coin de terre. Juste pour vous situer et pour vous aider à vous faire votre propre image de ce point du temps où je me trouve en ce moment même, je vous cite les principales manchettes du jour. À Beyrouth, rassemblement monstre des pro-syriens et des partisans du Hezbollah. À Bagdad, 57 morts hier dans les attentats, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne quotidienne. Sur le site de Radio-Canada, disparition en mer de la fille de Bob Gainé, Laura. D'autre part, un éditorialiste du journal La Presse, dont l'article est ici très brièvement résumé, se réjouit de ce que l'élection de M. Stéphane Dion à la tête du Parti libéral du Canada, je le cite, « va relever le niveau intellectuel du débat politique au Canada. » Je suis heureux d'apprendre ça, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai même droit, sur mon écran, à la photo de l'intellectuel, qui porte encore le foulard vert symbolisant sa victoire de la semaine dernière, et qui conserve, en dépit de son sourire de circonstance, cette même expression indéfinissable de défi méprisant qui a sans doute eu beaucoup plus d'impact sur sa fortune politique que la grandeur de ses idées. Si j'ajoutais maintenant à ces points de repère toute la masse des informations pertinentes qui, littéralement, font cette journée dans l'histoire du monde et la distinguent comme identique à nul autre, on pourrait croire que ce panorama nous mettrait véritablement, vous et moi, en contact avec le monde extérieur. Or, si je m'en remets à ma boussole intime, vous vous souvenez, ma boussole qui fonctionne toute seule et qui est branchée sur un de mes plus vieux souvenirs, eh bien, ma boussole, elle ne cesse de m'indiquer que le dehors est ailleurs et que tout ce réseau sophistiqué d'informations qui m'enveloppe, bien loin de me mettre en contact avec les choses à l'état libre, tout au contraire, m'en sépare et m'en exile. Puisqu'on sait bien, et ça, je ne suis certainement pas le premier à le souligner, on sait bien que le champ de l'information, avec les développements technologiques qui ne cessent de l'étendre et d'accroître sa puissance, n'est pas du tout, pour le quidam ou pour l'homme ordinaire, l'outil maniable que l'on voudrait nous faire croire. Le champ de l'information n'est pas du tout ce réservoir neutre de données ou le citoyen technologique. Ce citoyen technologique dont Time Magazine vient de faire son homme de l'année 2006, eh bien, ce n'est pas du tout ce réservoir de données où le citoyen technologique pourrait puiser à sa guise pour s'informer, comme on le prétend, d'une façon volontaire et objective. Tout au contraire, ce champ de l'information apparaît plutôt comme un agencement de force, un agencement dans lequel on pourrait se représenter sans trop de difficultés le fonctionnement étrange de notre civilisation. Des forces qui se disputent le contrôle de notre perception, non pas en lui présentant des données objectives, mais en l'inondant d'une suite infinie d'injonctions et de mots d'ordre sur ce qu'il faut voir dans les faits et sur ce qu'il ne faut pas y voir, sur ce qu'il faut y entendre et sur ce qu'il ne faut pas y entendre, sur ce qu'on peut en dire et sur ce qu'il ne faut pas en dire. La réalité, c'est que ce flot continu de discours confus, d'analyses tronquées, de commentaires biaisés, de débats supposés, nous injecte au goutte à goutte une petite peur permanente, une autocensure fantôme, une sorte de tabou durable qui envahit peu à peu toute la rationalité de ce qu'on appelle encore notre civilisation occidentale de source euro-chrétienne. Comme si le mélange et l'entrecroisement indémêlable des fanatismes religieux et politiques, des ruses et des mensonges technocratiques, des niaiseries politiciennes, la mise sur un seul et même plan des évictions territoriales, des dépossessions sauvages, des murs surréalistes ceinturant des territoires qui étaient partagés depuis des millénaires par des hommes de toutes les cultures, des attentats suicides, des chantages au nucléaire, des expéditions punitives et des missions de paix télévisées. Comme si la représentation de tout cela, comme si le spectacle qu'on en fait, avait conduit notre capacité de penser, c'est-à-dire conduit notre capacité personnelle d'effectuer ces petites actions virtuelles et expérimentales pour notre propre compte, à une sorte d'épuisement et de démission angoissée. Je me laisse un peu emporter. Mais on est toujours le 11 décembre 2006, et je ne l'oublie pas. L'avant-midi s'achève. J'éteins l'ordinateur. J'ai rendez-vous avec un collègue pour déjeuner. Il fait assez beau, pas trop froid, et je décide de marcher. Je quitte la rue du Roc par le boulevard des Invalides. Je remonte la rue de Sèvres, puis la rue du Bac jusqu'aux environs du quai Voltaire. J'ai un attachement très fort mais ambigu aussi, pour Paris. Parmi les grandes villes que j'ai eu la chance de connaître, c'est certainement celle où je perçois encore le mieux ce que j'appellerais une conscience de ce que c'est que vivre, aussi bien sur le plan individuel que collectif. En dépit de tout le prestige que Paris est censé avoir définitivement perdu au cours du dernier demi-siècle, j'y perçois encore partout, à tort ou à raison, ce que j'appellerais un souci de civilisation, un souci très moderne, très actuel de civilisation. En même temps, et ça semblera sans doute totalement paradoxal, peu de lieux me donnent aussi fortement l'impression d'une sphère refermée sur elle-même. Peu de lieux me semblent aussi intégralement conformistes, au sens littéral du terme. Peu de lieux, en certaines occasions du moins, me semblent aussi imperméables à une véritable expérience du dehors. C'est très curieux. C'est comme si l'abondance et la variété des savoirs, c'est comme si l'importance réelle qu'on accorde encore à Paris, aux valeurs culturelles et civiques, s'associait étrangement à une stéréotypie caricaturale des discours et à un aplatissement croissant des agirs et des comportements. J'écoute ce collègue avec qui je déjeune, si intelligent, si renseigné sur toute chose, et en même temps si fortement inhibé par le souci de ce qui peut se dire et ne pas se dire. En fin d'après-midi, je vais prendre une bière au Nemrod, à l'angle de Saint-Placide et de la rue du Cherche-Midi. On est à l'heure de l'apéro. Le bar est bondé. La terrasse chauffée, entourée de son rideau de plastique transparent, déborde de gens jeunes et moins jeunes qui affichent leur élégance désinvolte. Et voilà que j'assiste une fois de plus à ce spectacle parisien maintenant devenu parfaitement classique. Les trois quarts des clients attablés parlent dans leur cellulaire, le regard fixé sur un point théorique de l'espace ambiant. C'est étrange. Ces gens, tout absorbés à leur conversation, semblent contrôler à distance. Leurs gestes habituels qu'ils posent de leurs mains libres, boire leur verre, manger leur cacahuète, payer leur addition, déplacer une chaise pour laisser passer le nouveau venu, évoque une sorte d'état second. On dirait qu'ils sont là sans y être. C'est un ballet très bizarre, comme si les citoyens de la ville la plus cartésienne du monde se trouvaient collectivement commandés par une force anonyme qui les domine et qui uniformise leurs mouvements. En soirée, je reprends la lecture du procès de Kafka, que j'ai commencé il y a quelques jours. C'est une vieille manie dont je ne peux plus me débarrasser. Je fais coïncider chacun de mes séjours à Paris avec la lecture ou la relecture d'un classique. Ça doit être dans l'espoir de provoquer une résonance ou de poursuivre une sorte de dialogue silencieux avec le temps. Mais maintenant, je me demande si tout ce que je viens de vous dire ne m'a pas été soufflé à l'oreille presque intégralement par le Kafka du procès. Vous vous souvenez peut-être du procès. On a souvent soutenu que le procès évoquait un climat étouffant de paranoïa ou de folie de persécution. Mais pour ma part, je n'y ressens rien de tel. Le personnage principal du procès ne projette pas ses fantaisies malveillantes sur l'extérieur, comme c'est le cas d'un paranoïaque. Il ne se sent pas persécuté par le monde extérieur, il ne se défend pas contre le dehors. Au contraire, il recherche désespérément un dehors. Il tente de retrouver son dehors, sans y parvenir. Dès la première page du roman, le personnage apprend qu'il est arrêté. Mais les hommes qui l'arrêtent ne peuvent pas lui donner le motif de son arrestation parce qu'ils l'ignorent eux-mêmes. Du reste, on dit arrestation, mais c'est une très curieuse arrestation. On ne le conduira pas en prison, on ne le privera pas d'aucun de ses droits. Et pourtant, il est bien et bien arrêté, alors qu'il vient tout juste de s'éveiller et qu'il se trouve encore dans son lit, qui est son lieu le plus intime. Comme lui dit l'un des hommes qui l'arrête, vous êtes arrêté, mais personne ne vous interdira de mener votre existence ordinaire. Au même moment, il constate que les fenêtres de sa chambre n'ont plus de rideaux et que ses voisins, qui sont peut-être arrêtés eux-mêmes, participent totalement de sa propre intimité, une intimité qu'il croyait pourtant imprenable. Et à partir de là, toute la suite du roman devient la recherche d'un lieu extérieur où cette arrestation n'aurait plus cours, un lieu extérieur où les faits réels pourraient être pris en compte et où son innocence pourrait être établie à partir de ces faits. Son premier déplacement, sa première migration n'est pas très considérable. Il se contente d'aller dans la pièce qui jouxte sa chambre, dans le salon de sa logeuse, Madame Groubac. Là, il rencontre un officier qui est en train de manger d'ailleurs son propre déjeuner et qui lui confirme son arrestation sans plus d'éclaircissement, ce qui ne fait qu'étendre d'autant le territoire de la mystérieuse emprise. Il se risque alors un peu plus loin, dans son propre immeuble, jusqu'à la chambre de la jolie et sympathique Mademoiselle Bürsner, dans l'espoir d'y trouver du réconfort et peut-être certains indices. Mais ce double espoir est également déçu. Il tente alors de se rassurer en se disant qu'il pourra démêler toute cette affaire quand il retrouvera son bureau demain dans la banque où il travaille. Mais c'est pour constater, le lendemain, que son arrestation est toujours en vigueur, même dans son lieu de travail, et qu'elle reste toujours aussi énigmatique. Il se dit alors que le litige se dissipera pour de bon quand il pourra enfin se présenter à son interrogatoire. Mais quand il arrive enfin à la salle d'audience, qui est située dans un lointain et vague faubourg, il doit se rendre à l'évidence. Le mystère du décret qui l'entrave se perpétue, ne s'atténue pas, et ne cesse de le rattraper, où qu'il aille. Le lieu extérieur qu'il cherche semble toujours plus lointain. Mais plus encore, dans ce lieu illimité où son arrestation ne cesse jamais d'être en vigueur, les divers espaces communiquent les uns avec les autres. Par exemple, au chapitre 7, quand il se trouve dans l'atelier du peintre, il constate que l'une des cloisons de cet atelier est contiguë à la salle d'audience où il avait subi son premier interrogatoire. Il comprend alors que sa vie ordinaire, comme disait l'un des hommes qui l'avait arrêté, se déroule désormais dans un perpétuel dedans. Il est libre en apparence, mais il est sans cesse renvoyé en dedans, comme disent les prisonniers. Ou pour le dire autrement, au fil du récit, le personnage principal du procès ressent la transformation progressive du monde en un immense dedans, en une sorte d'intérieur illimité, avec un dehors de plus en plus lointain, dont l'atteinte semble de plus en plus impossible. Parvenu en ce point, et par déformation professionnelle sans doute, j'aurais beaucoup de difficultés à ne pas penser à Freud, en particulier au Freud dernière manière. Au Freud qui, dans les dernières années de sa vie, portait de plus en plus son attention sur les problèmes de civilisation. Non pas parce qu'il se désintéressait des problèmes cliniques, mais parce qu'il croyait, au contraire, que c'était la seule manière possible pour lui d'éclairer un peu certains problèmes cliniques qu'il avait rencontrés dans son travail d'analyste. En 1929, donc, un peu plus de 10 ans après que Kafka ait entrepris le procès, Freud écrit un livre qu'il intitule « Malaise dans la civilisation ». Je ne sais pas si on pourrait dire que Freud devient alors un peu kafkaïen, ou bien si c'est Kafka qui avait été freudien avant la lettre. Toujours est-il que dans « Malaise dans la civilisation », Freud essaie lui aussi de montrer, à sa manière, que la civilisation est un processus ambigu, qui assure la survie de l'homme en le possédant de l'intérieur. Un processus qui progresse en colonisant notre espace intérieur, en investissant l'intérieur de chacun de nous et en repoussant de plus en plus loin, pour chacun de nous, les limites du dehors. Freud n'observe pas pour autant que cette prise de possession de notre dedans par la civilisation nous prive de ce que nous appelons notre identité individuelle. Bien au contraire, et c'est là-dessus que je terminerai, il suggère que notre sentiment d'identité, notre sentiment d'être nous-mêmes, ce sentiment que nous éprouvons comme si intime, si personnel, si exclusif à nous-mêmes, il suggère que ce sentiment est en réalité investi et reprogrammé par des forces qui échappent à notre conscience et qui prennent leur effet dans notre propre perception et dans notre propre pensée. Il pense, Freud, que l'entretien de notre narcissisme contemporain, ou plutôt la maintenance, comme on dirait au Québec, la maintenance de notre narcissisme, l'importance de plus en plus grande que nos sociétés prétendent accorder à nos existences personnelles, Freud pense que ce culte de nous-mêmes n'est peut-être, en fait, qu'une illusion qui compense pour l'uniformisation et le contrôle croissant qu'on nous impose, et dont nous sommes en réalité les objets. Freud, dans ce livre, ne s'attarde pas à se demander si ce processus est bien ou mal. Il refuse les partis pris. Il ne veut surtout pas donner de leçons de morale. Il indique simplement, mais c'est quand même tout un programme, dans lequel je ne pourrai pas m'engager aujourd'hui, il indique simplement qu'à son avis, le devenir humain ne se poursuivra pas sans que nous trouvions des moyens de préserver, au regard du contrôle et de la réalité de substitution que la mécanique de la civilisation nous impose, que nous trouvions sans cesse des moyens de préserver la capacité de retrouver, au dehors, la réalité des choses à l'état libre.